aime ce que vous faites.
All right.
13h16 minutes, comme à chaque jeudi, on commence avec Mathieu Thomassin, puis on termine ça avec notre autre chronique. Mon chum Martin Bourget qui est là, président du groupe Aventure Chasse-Pêche. On parle de chasse et de pêche. Comment ça va, Martin? Est-ce que tu m'entends bien?
Yes, ça va super bien. Vous autres, comment ça va?
Ça va bien. Je suis content de te jaser. J'ai vu un article sur La Presse cette semaine que j'ai trouvé franchement intéressant. Pour les gens qui cherchent l'article, c'est dans la section Environnement sur La Presse. On parle de la Côte-Nord. On parle d'un gars qui, à chaque année, a une job. Il part pendant 6 semaines à chaque été pour aller compter les saumons dans le nord. Lui, il est situé à 100 km au nord de cette île. Fait que c'est assez profond, on va se le dire. Puis, il compte les saumons. Je pensais même pas que ça se pouvait. Et le gars, son métier, c'est opérateur de passe migratoire.
Oui. Oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Là, la passe migratoire de laquelle tu parles, c'est la passe migratoire de la Moisie, la rivière Moisie, qui est très connue. Il y a des passes migratoires comme ça sur toutes la plupart des rivières à saumon, évidemment. La plus connue étant Métis, probablement. Les gens s'arrêtent là, ils vont vraiment voir la passe migratoire, vont voir les saumons, et ça permet de compter les saumons. Ça, c'est une façon de compter les saumons. Il y a une autre façon qui se fait avec des plongeurs qui vont remonter les lits de rivière, puis dans chacune des fosses, ils ont un clicker à la main, puis quand ils voient un saumon, ils cliquent pour compter les saumons. Et c'est comme ça qu'on fait le dénombrement des saumons et qu'on va interroger un peu la montaison des saumons. Hein. Parce que les saumons, quand ils montent dans les rivières, c'est pour aller se reproduire, en fait. C'est pour aller mettre les œufs dans le dernier lac en haut, puis mettre les semences là-dessus, que les tacons viennent au monde, après ça, ils redescendent la rivière. Les saumons restants retournent en mer pour s'engraisser pendant la saison. Et quand ils montent dans la rivière, ils ne s'alimentent pas du tout, du tout, du tout. Ils vont aller se taler dans les fosses. Alors, on veut toujours avoir un suivi très, très, très rigoureux sur le nombre de saumons qui vont repartir en mer pour s'engraisser, mais qui vont revenir pour aller déposer leurs œufs, pour aller frayer littéralement. Hein. C'est la fraie des saumons. Pour comprendre un petit peu le comportement, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert que présentement, on est vraiment dans le caca, hein, dans le dossier saumon. Là, notre roi des rivières, là, il est joliment varlopé. Hein.
OK. Puis pourquoi il y en a de moins en moins des saumons? C'est-tu en raison d'une pêche excessive? C'est-tu en raison, je sais pas moi, des changements climatiques?
Il y a beaucoup, beaucoup de scénarios qui ont été observés d'après la surreprésentation du bord rayé dans les eaux du Saint-Laurent et avoisinants qui mangeraient peut-être les tacons dans le bas des rivières. C'est pas une raison qui est suffisante pour expliquer ça. L'érosion des rives avec les travaux forestiers puis le réchauffement des nappes phréatiques parce que les arbres sont plus là puis le soleil tape directement au sol. La destruction des fosses par l'érosion des rives, c'est pas suffisant non plus pour expliquer les deux explications les plus plausibles. Quand les saumons retournent en mer à partir du Québec, ils ont à passer par un véritable entonnoir avant d'atteindre l'océan entre une presqu'île et une île, puis le continent. Et c'est précisément un endroit où il y a énormément de pêche au hasard qui se fait au filet. Alors, les 4 ou 5 jours où passe le saumon, ben, ça se fait tout en 4 ou 5 jours. En 4 ou 5 jours, les rivières du Québec se vident, puis tous les saumons du Québec passent par cet entonnoir-là. Pendant ces 4-5 jours-là, on a tenté d'avoir un arrêt des pêches ou encore une vigile sur chacun des bateaux de pêche qui pêchent au filet pour voir dans les filets s'il se retrouve beaucoup de saumonaux. Puis on prétend que probablement que dans une canne de hareng, aujourd'hui, si tu as une canne de hareng qui vient du Québec, il y a probablement une grande proportion de saumonaux qu'il y a là. Il y a cette hypothèse-là. L'autre hypothèse, c'est l'élevage de saumons. L'élevage de saumon captif en mer sur le long des provinces du Pacifique, où est-ce qu'on utilise énormément d'antibiotiques pour prémunir les saumons contre toutes, puis finalement, les saumons deviennent tellement, avec un système immunitaire qui est faible, qui attrape toutes, puis il y aurait de la contamination croisée peut-être qui serait à ce niveau-là. Donc, il y aurait un taux de mortalité en mer des saumons qui serait incroyablement élevé. Écoute, la baisse de montaison du saumon dans les 3 dernières années, c'est 80%. On est en train de perdre le roi des rivières et on refuse encore de permettre des vigiles sur ces bateaux de pêche-là ou tout simplement d'arrêter l'activité de pêche commerciale pendant les 4 ou 5 jours où le saumon passe.
Puis la solution, ce serait uniquement d'arrêter ce type de pêche-là quand les saumons passent?
Ben écoute, dans un premier temps, je pense qu'il faut aller constater. Comme dans n'importe quelle étude, il faut baser nos décisions sur quelque chose. Ça fait qu'une première année, il serait d'autoriser à avoir des vigiles sur ces bateaux-là pour voir pendant ces 4-5 jours-là les filets remonter puis constater est-ce que vraiment on intercepte des saumons? Est-ce que c'est là la cause ou si c'est plus du côté de l'élevage de saumons en mer qui contamine à l'autre bout? Fait qu'on pourrait au moins aller chercher des preuves qui nous permettraient de prendre des décisions. Puis là, si on constate qu'effectivement, ils se capturent énormément de petits saumons, de petits et de grands saumons qui retournent en mer pour s'engraisser, bien, on cible les 4 ou 5 jours par année. C'est quand même assez prévisible. On voit avec les mouvements lunaires, les tables lunaires nous permettent de prévoir quand est-ce que ça va déguerpir. Puis on voit les saumons commencer à bouger à partir des rivières vers l'océan à ce temps-là de l'année. Mais on pourrait caler la shot à ce moment-là, dire pour les 4 ou 5 prochains jours, on stoppe la pêche commerciale. Mais il faut fonder ça sur quelque chose, d'où le besoin de vigile. Sinon, ben, on se virera vers les pêcheries.
Le poisson qu'on mange dans les restaurants, là, le saumon qu'on mange dans les restaurants, il vient d'où?
Principalement de l'élevage en mer. Ce sont d'énormes cylindres en filet qui sont au large des côtes dans lesquels il y a des centaines de milliers de saumons qui vont tourner en rond de leur plus jeune âge jusqu'à la fin de leur engraissement. Et là, on va prélever ces saumons-là, on va prélever ces cylindres-là de l'océan, puis on va sortir les saumons de là, puis là, ben chop chop, ça se coupe en beaux morceaux pour te servir au restaurant. Ça, c'est les saumons que c'est justement pour, en prévention, sont souvent bourrés de tout ce qui est antibiotiques et etc., qui vont faire que les saumons sont excessivement faibles au niveau des maladies, s'il y a de quoi qui passe dans le coin, fait que s'il y a une infection, malheureusement, bien, ils vont le projeter par contamination croisée dans la faune, dans la flore, excuse-moi, dans la faune aquatique environnante, dont notre saumon de rivière. Mais lui, il vient de là, il vient de ces élevages-là. Rarement, dans quelques cas, du côté US, il va avoir du saumon pêché, par exemple, dans le lac Ontario par l'État de New York, mais au Québec, là, c'est pas mal tout l'élevage commercial comme ça.
Puis est-ce qu'il y a des élevages qui se font dans le but unique de remettre ces saumons-là à la mer?
Pas de ce que je connais, non, du tout.
C'est particulier, là, t'sais, sachant qu'on va peut-être les perdre à un moment donné, il faudrait peut-être faire quelque chose.
Ben, moi, j'ai toujours tendance à dire, et des fois, ça peut être ironique un peu aux oreilles des gens. Dans les pourvoiries, tu as des gestionnaires qui vont faire ce choix-là. Ils vont ensemencer des lacs pour baisser la pression de pêche sur les espèces indigènes. C'est-à-dire qu'ils vont mettre du poisson d'élevage dans le lac A. Au lieu de tout envoyer les clients dans le lac B, qui est de l'indigène, mais il va diviser la pression de pêche. Fait que dans un certain sens, de dire qu'on va promouvoir une pêche dans des secteurs comme le lac Ontario, où est-ce qu'on ensemence des millions et des millions de dollars de saumon à tous les années, on va satisfaire les gens avec la pêche dans des lacs comme ça. Qui n'est pas la même pêche du tout qu'en rivière. Du tout, du tout, du tout qu'en rivière, pour amoindrir la pression de pêche, ou on va se mettre une colonne, comme le fait présentement la FQSA, la Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique, et va faire de l'éducation sur la remise à l'eau des grands saumons. De toute façon, c'est obligatoire cette année. Ils vont faire de l'éducation sur la remise à l'eau adéquate pour augmenter le taux de survie si tu veux aller faire la pêche sportive, mais sans nécessairement conserver ce poisson-là. Mais l'ensemencement de poissons directement serait difficile parce que le poisson indigène, le saumon, il vient au monde avec cette boussole-là, puis ce tempérament, puis cette habitude naturelle-là de s'engraisser en mer, de trouver son lit de rivière, là où est-ce qu'il est venu au monde, de remonter cette rivière-là pour aller jusqu'à sa tête pour se reproduire. Fait que de prendre un poisson de pisciculture, puis de le mettre à l'eau, il ne saura même pas où aller. Ça ferait plus de bouffe pour les autres poissons.
Incroyable. Martin Bourget, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine pour les gens qui veulent en savoir plus sur la chasse et la pêche, qui veulent suivre toutes tes aventures sur les internets ou encore la télé. On fait quoi?
Écoute, sur Google, tape aventure chasse et pêche ou aventure chasse pêche et si tu trouves pas une façon de te renseigner sur nous, c'est parce que tu fais des gros dodos. On a des Facebook, sites web, etc., YouTube, évidemment tous les jeudis soirs à 21h sur les ondes de Télémag, maintenant aussi de Sportsman Channel, Outdoor TV, My Outdoor TV puis Carbon TV. On est un petit peu partout.
Merci Martin.
Très bon, bonne journée.
Salut, bye bye. Je sais pas si tu as lu l'article au complet de la presse, mais il est franchement intéressant. C'est le genre d'affaire que j'aurais aimé faire quand j'avais 18-19
Ben,
ans.
je m'en allais te demander, tu le ferais-tu, toi? Le gars, il part pendant 6 semaines, il a son partenaire de travail, mais il voit quasiment personne, à part à quelques exceptions.
Il
là.
Te chippe dans le bois en hélicoptère, il faut que tu fasses un petit bout en canot, c'est 200$ par jour, fait que 7 jours, c'est 1400$, là. Puis, donc c'est assez payant. T'es logé, nourri. C'est sûr que tu peux pas vraiment t'amener ta petite caisse de 24 pour la boire chaque semaine, là. Donc, ce que je comprends, lui, dans son cas, il boit une bière par
ouais,
semaine.
Exact. Puis il raconte même une fois où il a croisé des campeurs. Puis il leur a donné une bière chaque, mais ça faisait 3 bières. Puis lui, c'est ça qu'ils disent. C'était ma consommation d'alcool pour 3 semaines que je venais de leur donner.
Ouais.
Mais oh, ben c'est complètement. Je veux dire, en plus, c'est pendant l'été. Moi, mettons, à 18 ans, s'il y a pas un moment où ça me tente pas tant d'être parti pendant 6 semaines,
ouais.
C'est pendant l'été.
Okay. J'aimerais ça que tu l'essayes parce que ta génération est née avec Internet. Pas d'internet dans le bois pendant 6 semaines, pas croiser personne, si ce n'est que le gars qui est embauché, qui est pas ton ami, avec les mouches qui sont au travers.
Je trouverais le temps long.
Ça, effectivement, après un certain temps, tu dois
Oui.
trouver le temps long. Je pense que cette job-là, c'est plus pour des gars comme lui qui sont autour de 50, 60, puis qui ont eu une grosse carrière,
Oui.
puis là, ils veulent juste la paix pendant une couple de semaines. Je pense que ça, c'est faisable. Mais jeune, là, moi, je
Ah.
pense à mes enfants qui sont encore très jeunes, là. Je les chippe dans le bois pendant 6 semaines. Ils croisent pas grand-chose à part des ours puis des orignaux. Et que ça sera pas long qu'ils vont halluciner, là.
Ouais, puis je veux dire, mettons, on reprend l'exemple d'à 18 ans. Je sais pas toi, Yann, là, mais moi, à 18 ans, j'avais plus l'esprit de « Ah, oh, c'est vendredi, on
Ben oui,
sort.
c'est ça.
» Ça te tente pas là, de passer 6 semaines à absolument, ben, à pas à rien faire, là, mais à être isolé de la société. Mais c'est sûr qu'une fois, je veux dire, t'as 55, 60 ans, bon... Peut-être que ça te tente d'avoir un peu de tranquillité durant 6 semaines, de dire, garde, c'est quoi cet été, je le prends seul.
Ouais, puis tu as une certaine expérience au niveau manuel. Tu
Ouais.
peux faire des trucs là-bas pour essayer d'améliorer le camp que tu vas revisiter l'année d'après. T'sais, mais quand t'es jeune, là,
Ah,
16,
moi,
17,
ça me
18,
tenterait pas pantoute,
tu
ça.
m'envoies là, dans le bois,
Bon.
6 semaines, à un moment donné, je commence à avoir des
Mais
choses qui n'existent pas.
mettons, je te dis dans 10 ans, là, mettons, dans 10 ans, tu travailles pas pendant un été, OK, tu partirais-tu pendant 6 semaines?
Moi, je le ferai. Je suis
Ah,
rendu
ouais.
à l'âge où je peux le faire pendant 6 semaines. Je vais avoir hâte de revenir pour venir voir mes enfants et tout ça, là. Mais je serais capable de le faire. Pas d'Internet, je serais capable de le faire.
Ben, rendu à un certain âge, j'ai l'impression aussi que la tranquillité, la paix d'esprit, ça vaut de l'or. Fait que rendu là, tu te le fais un peu donner sur un plateau d'argent avec ça, là. Mais non, moi, en tout cas, c'est pas fait pour moi pour l'instant, là.
Ouais.
Je m'ennuierais. J'ai besoin de social dans la
Tu vois,
vie, là.
Antoine, il me dit, moi, entre 17 et 19 ans, je partais 2, 3 mois planter
Ah,
des
ouais.
arbres dans le nord. Puis il dit, j'ai adoré l'expérience. Ben, oui, c'est une
Ben,
super
c'était un
belle
trip.
expérience.
J'ai des amis qui sont partis dans l'Ouest canadien l'an passé, aller faire un petit trip de gars, travailler. Ils travaillaient dans une station de ski, je pense, qui était adaptée au plein air pour l'été. Puis ils ont trippé leur vie, là. Mais après 2 mois, ils étaient écœurés, ils sont revenus un mois d'avance. Fait que quand t'es jeune, des fois, c'est un peu plus difficile.
13h29 minutes, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Au sport, on vous rappelle qu'il y a eu quelques petits trucs qui ont changé dans les dernières heures. Transaction majeure au courant de la nuit. Le jeune attaquant des Sabres de Buffalo, Jiji Peterka, qui est passé aux Mammoths de l'Outa, avec qui il a signé un nouveau contrat de 5 ans à 7,7 millions annuellement. Puis en retour, ben, les Sabres ont mis la main sur le jeune attaquant. Josh Doan, ça doit vous dire quelque chose, c'est le fils de Shane Doan et sur le gros défenseur de 25 ans, Michael Kesselring. Sinon, Jimmy Benn qui reste pour une 17e saison avec les Stars de Dallas, contrat d'un million plus des bonus. Quand même une belle dernière saison, Jimmy Benn, là, il est en fin de carrière, mais il est encore capable. 16 buts pour un total de 49 points en 80 matchs. Cette saison, il gagnait 9,5 millions, puis l'année prochaine, ça va être 1 million. Petite baisse de salaire. Victoire des Capitales de Québec, 10-3 hier à Trois-Rivières. Donc, possibilité de compléter le balayage ce soir avant un retour à Québec pour la fin de semaine. NBA, sans surprise, la future super vedette Cooper Flagg a été sélectionnée au tout premier rang par les Mavericks de Dallas au 9e rang. Ben, les Raptors de Toronto ont jeté leur dévolu sur l'allié des Gamecocks de Caroline du Sud, Colin Murray-Boyles. Donc, excellent choix. Et sinon, ben, pour nous autres, ceux qui trippent sur la Ligue nationale de hockey, première ronde, c'est demain soir.
Yes,
c'est ça.
Ben oui, c'est sûr et certain que je vais être branché. Mais pour parler un peu de la NBA, c'est quand même ironique les Mavericks qui échangent Doncic pour après ça, qui est comme une superstar, là, pour après ça repêcher une nouvelle superstar. Fait que faut croire, sont bien chanceux les Mavericks. Ils vont avoir tout un joueur là.
Les colocs, passe-moi un puck sur boulevard. Regarde que t'as